L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Simara. Mise en scène production Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sur cette marque sont la propriété de l'auteur. ils lui répondent qu'ils croient que ceux qui sont pris sont amenés sur le chantier des nouvelles villes, mais que pour y entrer, c'est impossible. C'est trop gardé. Gilles décide d'aller à Paris, et là, il verra. Malheureusement, qu'il n'a pas d'argent, il doit faire du stop ou marcher. Il se met en route. À la sortie de Lyon, au début de l'autoroute, il fait du stop. Il y a peu de voitures qui passent et ne s'arrêtent pas. Enfin, un camion s'est arrêté. Il ne va qu'à 50 km d'ici. Il le prend et se dit que c'est tout de même 50 km de prix. Le chauffeur, un gros rougeau, lui dit qu'il l'a pris parce que je m'ennuie. J'amène de la volaille au marché. On parle de ce qui se passe en France. Il dit que c'est bien triste, mais les choses ont guère changé. Que le roi, à part qu'il a donné la libération des hommes, ça c'est bien. Il faut se défouler. Mais moi, je n'ai plus l'âge. Et puis, lorsqu'on a femme et enfant, on ne peut pas être bien libre. La famille, elle crée des ennuis. L'union libre, il n'y a que ça. Oui, le roi, c'est chouette pour ça. Je lui dis, mais toutes les émeutes, tueries et enlèvements, Camionneur lui dit, ça, c'est la vie. Et puis les enlèvements, c'est pour diminuer le chômage. Comme ça, les feignants ont du travail. Bien sûr, eux, ils foutaient rien. Maintenant, ils sont obligés de travailler. Moi, je ne suis pas contre. Et puis, il faut sélectionner. Il n'y a pas de quoi nourrir tout le monde. L'eau se fait rare, alors autrement. Que pouvons-nous faire? C'est supprimer les parasites. Enfin, ils arrivent à la ville. Il va décharger ses poulets qui sont dans des cages au marché de Gros. Gilles veut le laisser, mais l'autre veut lui payer un jus. Il ne peut lui refuser. Déjà, tu ne peux lui donner de l'argent. Café Prolo, musique barbarie, etc. Du monde au café, le chauffeur est connu. On lui fait des gestes de sympathie. Il présente Gilles et dit « C'est un brave type. Il a les mêmes idées que moi. » Biscoquet leur sert un café et un rouge Marnia. On parle de la chaleur, du prix de la vie et de ces cons qui se font prendre. Que les nègres sont pris aussi et vont directement au chantier. Il y en a qui rient. Ils disent au bagne ou en enfer. Bien fait pour eux. Ils décident c'est de jouer aux cartes pour savoir qui c'est qui va se payer la lisette. chauffeur demande à Gilles de jouer avec lui. Gilles lui dit qu'il n'a pas le temps. L'autre lui dit « On a toujours le temps quand on veut. » Gilles fait tomber à terre de sa poche une petite croix. Le chauffeur le voit et demande « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Tu vas pas me dire que t'es du côté des curés, toi, par hasard ?»«
Non, je vous assure, c'est un souvenir de ma mère. »
Morte. Il lui monte la croix, l'autre crache dessus. Fais comme moi, comme ça, je serai sûr. Autrement, j'aurais du remords d'avoir laissé passer un papiste. Gilles a peur de ces alcooliques. Alors, il a craché. Les autres rient, le chauffeur dit. Ça va. Un papiste n'aurait jamais craché. Je serais plutôt fait tuer pour la religion. Gilles les quitte.
Il a honte de ce qu'il a fait. Il se dit qu'il a renié Dieu comme Judas, qu'il n'est plus digne d'être un prêtre. Il prend un canif de sa poche et se fait des entailles sur la paume de ses mains. Comme ça, il ne pourra plus faire de sacrement. Il se considère comme un criminel. Il nettoie la croix, la baise. Il est furieux contre lui. Il continue sa route. Le corps gros se dit que lui aussi a été gangréné par l'atmosphère ambiante. Mais il doit continuer son chemin. Pendant ce temps, dans la maison de Versailles, Georges Marchal et Louis Morel parlent au salon. Louis Morel dit « Il serait temps, c'est de commencer notre projet. Il y a eu suffisamment de victimes. Nous sommes trompés, il faut réparer. »
Georges lui dit « Comment faire ? La ville nouvelle n'est pas finie. »
Lui lui dit « Peut-être que lors d'une de ses visites, il faudra faire vite. Donc, il faudra avoir à portée de main l'autre. »
Georges lui dit « L'autre ne veut pas. Il ne croit pas à ce qu'on lui dit. »
Paul lui dit, lui lui dit, même s'il ne croit pas, pour le convaincre à aider, il faut lui dire qu'il faut qu'il nous aide à arrêter tout ça. C'est un prêtre, non?
Oui.
Eh bien, c'est facile de le convaincre. C'est de lui dire qu'il faut sauver l'Église. Vous allez aller à Lyon et faites en sorte à ce qu'il vienne ici.
Bien, je vais essayer.
Georges va à Lyon. Là, il voit l'église et le presbytère en ruine. Va à la clinique. Il demande où il pourrait voir Gilles. On lui dit qu'il ne sait pas où il est. Ça fait des semaines qu'il a disparu. D'ailleurs, même le jeune qui était avec lui a disparu, et la jeune fille aussi. Ils sont peut-être partis ensemble. Quoique ça me paraît bizarre qu'il soit parti comme ça, sans rien nous dire, à moins qu'il ait été pris. Georges le quitte.
Il est inquiet. Gigi l'est pris. En tant que prêtre, c'est la mort. Et s'il meurt, tout est perdu. Il essaie de savoir dans le quartier, se renseigne pour savoir s'il n'y a pas eu d'enlèvement. On lui répond que oui. Il demande si le prêtre n'a pas été pris. On lui dit qu'il ne le pense pas. Certains se rappellent même qu'ils l'ont vu après. Mais qu'on ne le voit plus depuis quelque temps. Il demande, et ceux qui vivaient avec lui? On lui dit, pas revus. Il retourne à la clinique. Demande l'adresse de la jeune fille qui était avec lui. On hésite. On ne sait pas s'il est l'ami du prêtre ou non. Et puis, la jeune fille est peut-être morte. Alors, on la lui donne tout de même. Il y va. Trouve l'immeuble. Elle ouvre. Elle allait sortir. Il lui dit, j'ai quelques petites questions à vous poser. Elle lui demande, sur quoi? Sur Gilles. Elle tique. Elle pense que c'est la police. Je ne le vois plus. Il lui dit, n'ayez pas peur, je suis un ami. Il lui montre la croix. Elle accepte de le recevoir. Entrez. Il lui dit, j'aimerais le revoir. Elle lui dit, il est parti, je ne sais où, quand, une semaine à peu près. Et dans quelle direction? Je ne sais pas, mais parti, il a dû partir loin. Il se cache de la police et des gens. Vous savez pourquoi? Peut-être, il est peut-être dans des caves. Il lui demande, quand elle l'a vu la dernière fois, il y a 15 jours à peu près, il était très démoralisé à cause du garçon qui vivait chez lui qui a été pris. Vous en êtes sûr? Oui. Donc, il cherche à le retrouver? Oui. Mais c'est impossible. Merci, madame. Georges essaye, ses devoirs dans le quartier, mais ce n'est pas facile. Décide, c'est de retourner voir Louis Morel pour lui dire ce qu'il sait. Le retrouve et lui dit. Lui dit, c'est peut-être bon. S'il cherche à retrouver une de ses connaissances, il va se rendre compte de l'état effroyable où est la France. Et ça va nous aider. Il acceptera plus facilement de nous aider. Georges lui dit, peut-être, mais il a disparu. Lui lui dit, ses recherches vont mener au chantier des villes. Nous le prendrons là. Mais comment? C'est immense. Et puis, ni lui, ni nous, nous pouvons entrer dans le chantier. Lui lui dit, nous pourrons le prendre avant qu'il cherche à entrer. Lui faire comprendre que c'est dangereux d'y entrer. Et qu'il doit nous aider. Mais qu'on peut et on pourra l'aider à entrer et à en sortir. Je lui demande comment. Il suffit qu'il nous croie. Et puis, qui sait? Il faut croire au miracle. Pierre veut sortir de ce bagne. Il veut créer une émeute. Mais c'est pas facile de révéler les gens qui sont épuisés, sous-alimentés, ne pensent qu'à sauver leur peau. Parce que tous les jours, il y a des tueries. Donc tous les hommes qui sont trop faibles. L'on ne nourrit pas ceux qui ne font rien. Les pierres réussissent à convaincre quelques hommes. Il leur dit que de toute façon, ils n'ont rien à perdre, que leur vie ici est comptée. Alors pourquoi pas essayer de se sauver? C'est se sauver pour vivre ou de mourir libre. Il les convainc et crée une émeute. Prennent des barres de fer, tapent sur les gardes. Ils sont de plus en plus furieux. Mais les gardes leur tirent dessus. Il y a des morts, de nombreux morts. Les prisonniers sont amenés au cachot. Les prisonniers qui peuvent travailler sont amenés au cachot. Les autres, on les fait travailler. Ceux qui n'ont pas participé à l'émeute sont furieux. On leur dit qu'à chaque émeute, rébellion, les hommes prennent 50 personnes au hasard. C'est ceux qui ne sont pas rebellés et les fusillent devant tout le monde. Les hommes sont furieux contre Pierre. On le tabasse lorsqu'il sort du cachot. C'est sa peau. Il y a eu tant de morts. Il a beau leur dire que de toute façon, on est tous pour être fusillés un jour ou l'autre. Les hommes ne le croient pas. La police l'a repéré. Il pense que c'est un meneur, peut-être même un papiste. Alors sous n'importe quel prétexte, on le tabasse. La police le tabasse aussi. Pierre se sent seul et les autres lâchent. Il est triste pour ceux qui sont morts. Il se dit que ce n'est pas de sa faute. Les jours passent. Georges et Louis mettent des gens à eux aux abords du chantier, avec la photo de Gilles. La photo est cachée derrière leur montre. Ils ne doivent pas se faire remarquer. Pour se punir, décide c'est de ne plus faire du stop. Il cherche des petits chemins en dehors des grandes artères, contourne des villes, s'enfonce dans la campagne. Il fait chaud, très chaud, et toujours du vent. Le paysage est désertique. Des prés, des terrains. Ils sont brûlés par la chaleur. Gilles essaye, comme il peut, c'est à passer par des forêts, des bois. Il a soif, faim, les sources sont rares. Pour ce qui est de manger, il mange des fruits lorsqu'il en trouve, maigrit, se s'enlit, dort la journée et la nuit, marche, et les nuits sont aussi chaudes. Des fois, lorsqu'il voit une ferme, il demande un peu d'eau et à manger. Le plus souvent, on lui lance le chien et il est obligé c'est de se sauver. Être mordu par ce meloche. Des fois, on lui donne de l'eau à boire, quelques fruits et un morceau de pain. Les paysans lui disent que les temps sont durs et qu'ils ne vont même pas pour eux. Gilles les remercie et s'en va. Il ne sait pas combien de kilomètres il fait par jour et combien de temps il va mettre. Passer une ville est très dangereuse. Alors, il a beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de policiers. Et comme un vagabond est vite pris. Des fois, il se dit que si ce que je prends, il retrouverait peut-être plus facilement Pierre. Mais il se dit que peut-être aussi, il l'emmènerait dans une autre ville. Et puis, prisonnier avec lui, qu'est-ce qu'il pourrait bien faire? Tandis que là, il est libre. Un jour, il y a un grand orage. Il cherche à se protéger dans cette plaine, mais il n'y a rien. Il voit au loin une ferme. Il y court. Thank you.
Essoufflé, bruisselant, il sonna à la porte. Lui ouvre, c'est une femme. Il lui demande, qu'est-ce que vous voulez? Il lui dit, j'aimerais un abri. Entrez. Elle le fait entrer. C'est la pièce principale directement. Meubles disparates, dans un coin, évier, une cuisinière à charbon, table avec banc. C'est sombre et sale. Vous êtes tout mouillé. Déshabillez-vous. C'est ce qu'il fait. Tenez, une serviette pour vous sécher. Merci. La serviette, c'est pas une serviette éponge. Elle sert à faire de la vaisselle. Une fois qu'il s'est épongé, il reste un sous-vêtement pour que ses vêtements puissent sécher. Allez, mettez-vous à table, je vais vous donner un petit quelque chose. Il se met à table et il demande, qui êtes-vous? Je cherche à manger. Et du travail. Vous êtes bien jeune. Mais peut-être êtes-vous un de ces feignants de SDF? Non. Alors, j'ai tout perdu à cause des émeutes, elle lui dit. Je comprends. Il a faim, elle le voit. Tenez. Elle lui donne un morceau de lard et du pain. Merci. À la campagne, on n'est plus. C'est mieux qu'à la ville. Un cochon, ça donne de la viande pour l'année. Et puis il y a le jardin. Merci, c'est bon. Une fois qu'il est mangé, ce sang-là. Bon, vous voulez peut-être vous reposer. Prenez vos vêtements. Venez. Et il la suit. Elle lui fait monter un escalier de pierre jusqu'au grenier. L'escalier est en bois tout poussiéreux. Voilà, je peux vous proposer que ça. Vous serez bien ici. Oui, merci. Bonne nuit. Elle le laisse. Le grenier n'est pas très grand. Il y a de la poussière. Plein de sacs de pommes de terre. Là, il se couche sur les sacs de pommes de terre, se sent bien. Il dort comme un enfant. Le matin, il est réveillé par le coq.
Se lève,
s'habille, sort du grenier, et de la maison. Va à la fontaine de la cour pour se laver. Il n'y a qu'un mince filet d'eau. Il entend du bruit à l'étable. Il va voir. C'est la femme qui change la litière des vaches. Elle lui dit :
Bonjour, bien dormi ?
Oui, merci.
Vous voyez, je change la litière des vaches. Depuis qu'on ne peut plus les mener au champ, il faut les tenir propres dans l'étable. C'est pas facile.
Je peux vous aider ?
Oui, si vous voulez.
Elle lui donne une fourche et il l'aide. Ensuite, c'est une deuxième fois lavé, il va prendre son petit déjeuner avec elle. Avant de partir, elle lui dit :
J'aurais bien aimé vous le garder, mais je ne peux pas. Il y a juste de quoi se nourrir.
Il lui dit qu'il comprend. Elle voit ses cicatrices qu'il a sur la paume de ses mains.
Ce n'est rien, c'est guéri.
Continue à marcher. Je ne sais pas combien de temps il va mettre pour arriver à Paris. Il fait toujours très chaud. Le paysage est désertique. Tout est à sec. Lorsqu'il voit une fontaine, il en profite pour boire et se rafraîchir. Il rencontre un vieux paysan qui essaye de chasser. Le paysan lui dit :
Je ne tue que des serpents. Il n'y a pas beaucoup d'autre chose. Je me demande, c'est pas les seules bêtes qui sont sur terre. Plus de mouleaux, d'oiseaux, de lièvres, rien. C'est la fin du monde.
Il pense que peut-être les humains ont trop de demander à la terre. Maintenant, ils vont mourir de chaud, de soif, de faim. C'est leur faute. Ils ont mis à sec la terre. Ils marchent la nuit, la journée, ils dorment sous les arbres, sans feuilles, morts à cause de la chaleur. Mais il fait bien attention aux serpents. Les jours passent. Et un jour, c'est la saison des pluies. Elle commence par de gros orages. Il pleut pendant toute la journée. Une grosse pluie chaude qui rend l'air irrespirable. Beaucoup de gens prennent des maladies respiratoires. Des gros rhumes, des pneumonies, d'angines. La terre, trop sèche, ne peut voir l'eau. Alors l'eau de pluie ruisselle, gonfle, entraîne avec elle ce qu'elle peut. Le paysage devient vite un grand fleuve.
qui file. Tonnerre, plein de branches d'arbres. Qui filent des bêtes mortes. Que il pleut sans arrêt. L'eau monte et inonde les maisons. Elle va jusqu'au toit des maisons. Les bourgs, les villages sont inondés à hauteur de maisons. Les gens montent sur leur toit pour attendre du secours. Des hélicoptères viennent les chercher pour les déposer sur des collines où l'on a créé des baraquements de fortune. Mais des fois, la colline s'enfonce et inonde les baraquements. Il continue à pleuvoir. La terre ne peut plus absorber. Les villes aussi sont inondées. Plus d'eau potable. Les gens sont isolés. Même les autoroutes sont inondées. Au chantier de la nouvelle ville, on a arrêté de faire les fondements de la ville et les sous-sols de l'autre ville. L'eau est entrée dans les sous-sols. Ça a inondé. Il y a eu des ouvriers qui sont morts. Impossible de travailler. L'eau s'est infiltrée par les ouvertures qui va jusqu'au sous-sol. Un vieux, cheveux et barbe blanche, lui dit « Nous sommes prisonniers, comme esclaves. » J'ai lui dit « Les autres sont esclaves de leur plaisir, nous, nous sommes esclaves du travail. » Les baraquements, les ouvriers sont aussi inondés. Alors on leur fait faire au péril de leur vie, des baraquements sur pilotis. Ils sont obligés, c'est de travailler dans l'eau et sous les baraquements. Mais pour renforcer les pilotis dans la terre, les hommes sont obligés, c'est de plonger et d'aller jusqu'à la terre. Le travail est très pénible. Et tue plusieurs ouvriers. Il faut prendre un tronc de bois, plonger avec et descendre sous l'eau pour qu'on l'enfonce dans la terre. Pierre a été nommé plongeur. Plonge dans cette eau boueuse où on n'y voit rien. Pourtant, il faut bien planter les pics comme il faut si l'on veut que la baraque soit droite et résiste aux intempéries. Il plonge. Il a retenu son souffle. Tient le tronc d'une main. L'eau a tendance à
vers Tanguay. Il pèse de plus en plus lourd. Il doit rester quelques secondes sous l'eau pendant que les autres, au-dessus, aient suffisamment de temps pour l'enfoncer. Puis, il remonte en vitesse. Et là, il retrouve la pluie, la lourdeur. C'est terrible, pénible. La saison des pluies est plus dure que la sécheresse. Le temps plus lourd. Et l'on est tout le temps mouillé. Mais il faut s'y habituer. Parce qu'il paraît que les choses seront toujours comme ça, saison de pluie et sécheresse. Gilles, lui, au début des pluies, il a été obligé de s'abriter sur un toit. Ou de se couvrir d'une bâche qu'il trouve. Il a faim, mais quoi manger? De l'eau, que de l'eau, et de l'eau sans poisson. Il se dit qu'il va mourir. Qu'il va mourir de faim sur ce toit. Il voit arrivée une barque, elle semble à la dérive, décide d'aller voir, plonge et nage. Il y a à l'intérieur des cadavres, un homme et une femme. Jette les cadavres à l'eau, voit les rames. Sur la barque, il y a une bâche. Il se protège de la pluie en mettant la bâche. Et il y a dans la barque des caisses. Il les ouvre et voit que c'est du ravitaillement. Il se dit que les gens avaient prévu de partir, mais que peut-être la maladie les a pris. Il est sauvé. Protégé par la bâche, il peut ramer et il a à manger. Il se met à ramer, droit devant lui. Fais attention à ce que la barque ne soit pas prise par des branchages, des troncs d'arbres, des animaux morts. Là, il rame toute la journée. Et le soir, il s'allongera dans la barque. Il avance beaucoup plus vite qu'à pied et c'est moins fatigant. Il peut manger des biscuits, des conserves de poissons et légumes. Il ne peut pas faire cuire, mais c'est bon tout de même. Il se sent heureux. Cela n'est pas arrivé depuis son départ. Passe devant lui un paysage où on ne voit que des toits.
des gens sont dessus qui lui font signe. Il a honte, mais ne peut pas. La barque est pas assez grande pour les prendre. File. Dans les bourgs, villages et même villes. Le paysage est une grande immensité d'eau où il pleut sans arrêt avec des toits de maison. À part le bruit de l'eau, le silence. Ça calme, Gilles, ce silence. Et puis, il n'a plus à lutter contre les hommes. Au loin, très loin, il voit une ou deux barques. N'essaie pas de les appeler, d'aller près d'elles. Je dis que le malheur vient des eaux. Seul, il ne risque rien. Non, rien. Un jour, une barque tombe sur lui. Il y a un homme qui rame. Arrivé près de lui,
nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Si Marat, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.